Quatrième jour, l'homme de toutes les heures. Lettre à son ami Antonio Bonvisi, 1535, quelques jours avant son exécution. C'est sans nul doute un bienfait très sublime et très insigne, et venant d'une faveur particulière de Dieu, le fait qu'au nombre de mes chétifs amis, toi, un tel homme et un si grand ami, m'aient été procurés un si long temps d'avance pour alléger et soulager une grande part des maux que m'infligent les revers de la fortune. C'est pourquoi, mon Antonio, toi le plus cher d'entre tous les mortels, je prie ardemment, c'est là tout ce que je puis faire, le Dieu suprême et très haut qui t'a procuré à moi de bien vouloir rétribuer dans sa bonté, puisqu'il t'a donné un débiteur qui ne pourra jamais s'acquitter envers toi, les bienfaits dont tu me combles à profusion. Et au sortir de ce siècle mouvementé et tempétueux, de nous conduire en son repos, où il ne sera plus besoin de l'être, où ne nous séparera nulle muraille, où nul geôlier ne nous empêchera de nous entretenir, mais où nous jouirons de la béatitude éternelle avec Dieu le Père, avec son Fils unique Jésus-Christ, et avec leur esprit à tous deux, le paraclet qui procède de l'un et de l'autre. Si Thomas More manifeste ainsi sa reconnaissance à l'un de ses amis proches si peu de temps avant sa mort, c'est que pour lui l'amitié n'est pas un vain mot. Jamais il ne se dérobe aux lois et devoirs de l'amitié. Ami fidèle dans toutes les circonstances, c'est avec justice que son jumeau spirituel Erasme peut l'appeler « Omnium Horarum Hominem », un homme pour toutes les heures, et le dire « Natus ad amicitiam », né pour l'amitié. Sa maison est ouverte à tous ceux qui de tout pays viennent frapper à sa porte avec un simple mot d'introduction d'amis rencontrés au cours de ses voyages. Si les mots amitié et fidélité dans l'amitié ont un sens, toute la vie de Thomas More le prouve. Sans jamais se dérober, il prend par l'écrit, par la parole et par l'action la défense de ceux qui sont injustement attaqués ou contestés, comme Erasme entre 1515 et 1520, en allant bien au-delà de ceux qui sont ses amis de cœur, comme le clergé de 1523 à 1533. Nous avons rappelé au début de ce parcours que nous allions rencontrer un homme ordinaire, un chrétien certes, mais pas un saint de vitrail. More vit dans la cité, se promène dans les rues et sur les marchés, connaît bien le peuple de Londres, sait le défendre devant les tribunaux et au Parlement face au fisc d'Henri VII au début de sa carrière. Dans ses responsabilités, il n'a de cesse de s'insurger contre toutes les formes de violence et de xénophobie. C'est ainsi qu'il s'est apaisé une grave émeute des apprentis de Londres qui s'opposaient à la présence de main-d'œuvre étrangère. Une nouvelle fois, le XVIe et le XXIe siècle sont proches. Son tempérament, sa formation d'avocat et ses talents d'orateur sont mis au service de tous ceux qui en ont besoin, ce qui explique pourquoi il est élu under-shérif, juge et prud'homme. Il occupe ce poste pendant plusieurs années à la satisfaction unanime de ses concitoyens. Celle-ci est liée à la rapidité du traitement des affaires et à son désintéressement. À l'opposé des mœurs de son temps, il quittera cette fonction sans s'être enrichi, refusant tout don de quelque nature que ce soit. Sa correspondance avec les figures connues de son époque en Grande-Bretagne, comme sur le continent, est comme celle d'Erasme ou de Budée, exceptionnelles pour comprendre l'intimité des rapports qui existaient entre les membres de cette Europe de la culture dont le latin était la langue commune. Pour saisir ce que représentait l'amitié pour Thomas More, nous devons citer un fragment d'une lettre écrite à son sujet par Erasme. On le dirait né pour l'amitié. Il la cultive avec une absolue sincérité qui n'a d'égal que sa ténacité. Il n'est pas homme à s'effrayer de la multiplicité d'amis. Il n'excuse personne de ses liens sacrés. Nullement exigeant dans le choix de ses amitiés, il est très complaisant dans leur entretien et il n'épargne rien pour éviter leur rupture. S'il lui arrive de tomber sur une personne dont il ne puisse corriger les vices, il saisit la première occasion pour se séparer d'elle. Il découd ainsi l'amitié sans en rompre les fils. S'il rencontre des amis sincères, il a tant de plaisir qu'il semble puiser dans ce commerce la principale joie de l'existence. More devient au fil des années un important relais au cœur du réseau des humanistes de la Renaissance. Dans sa maison, son académie, il peut mettre en pratique nombre de ses principes pédagogiques en discutant librement d'art, de littérature, de religion ou d'affaires du monde avec femmes, enfants, amis et visiteurs, sans distinction de rang social ou de sexe. En plus de sa bienveillance et de son empathie naturelle, More dépasse les comportements habituels des hommes, comme nous le lisons dans la dernière prière qu'il a rédigée en prison. Je cite « Dieu Tout-Puissant, aie pitié de tous ceux qui me portent mauvais vouloir et me veulent du mal, et daigne amender et redresser leurs fautes et les miennes tout ensemble, par de tels moyens de douceur, de mansuétude que ton infinie sagesse peut inventer, et fais de nous des âmes sauvées ensemble dans le ciel, afin que nous puissions vivre et aimer ensemble à jamais avec toi et tes saints bienheureux. Ô glorieuse Trinité, de par l'amère passion de notre doux Sauveur Christ. » Fin de citation. Ce refus de juger ceux qui, non seulement ne pensent pas comme lui, mais sont ses adversaires, se conforme au message évangélique. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. More nous dit, prions donc le Christ très clément, non seulement chacun pour soi, mais chacun pour tous, quel qu'il soit. Pendant son emprisonnement, Thomas More va encore plus loin, demandant l'aide de Dieu pour considérer mes plus grands ennemis comme mes meilleurs amis. C'est ainsi que ses critiques, ses reproches, ses instructions sont toujours exprimées avec humanité ou teintées d'un humour bienveillant. Après l'évasion d'un prisonnier enfermé chez lui à Chelsea, More, chancelier du royaume, déclare, je cite, « J'ai dit à mon portier de réparer les fers et de bien fermer la porte afin que le prisonnier ne puisse pas y rentrer. Mais au fugitif, je n'en veux nullement. » Se voulant proche de tous, More affirme avec force dans sa propre épitaphe qu'il compose et fait placer de son vivant dans son église paroissiale à Chelsea, qu'il se conduit de telle sorte qu'il ne fut ni odieux à la noblesse, ni désagréable au peuple, mais fâcheux seulement aux voleurs, aux assassins, aux hérétiques. Pouvons-nous, comme Thomas More, répondre à l'exigence du Christ, contenue dans sa réponse à Pierre qui lui demandait « « Seigneur, combien de fois mon frère pourra-t-il pécher contre moi et devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. »